Libre radio noctambule, au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages, se dissimule brasier, tumulte et sédition. Libre radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org.
La mer ne vieillit pas, la mer n'a pas d'âge. Le soleil, le ciel sont éternels. Je regarde au loin chaque tête d'écume. Il me semble que je sais maintenant ce que je suis venu chercher. Il me semble que je vois en moi-même comme quelqu'un qui aurait reçu un songe. Ça, c'est une citation de L'Ecclésio. Alors bonjour Céline Meyer et bonjour David Kreitzhammer.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici, donc dans les bureaux de Geneva Camerata, pour cet entretien qui va justement nous donner à réfléchir, à penser, à voir ce qu'est Geneva Camerata ici à Genève. Alors peut-être voudriez-vous commencer par vous présenter un petit peu plus loin que ce que je viens de dire seulement. Qui veut commencer ?
Alors, merci beaucoup. On est très heureux d'être avec vous pour présenter l'orchestre, présenter nos prochaines activités. Donc le Geneva Camerata est un orchestre qui a été créé en 2013 par Céline Meyer et par moi-même. On l'a créé parce que on avait pu constater chacun, chacun dans ses domaines, dans le monde musical, on avait pu constater qu'il y a un réel souci dans le monde de la musique classique qui peut être perçu comme un monde assez élitiste, des fois qui est un peu ancré dans le passé, qui n'est pas très très actuel et surtout qui ne réussit pas à attirer les jeunes. Et du coup, on s'était dit que ce serait une belle idée de fonder un nouvel orchestre qui puisse justement avoir des missions qui, d'une part, soient plus actuelles, plus modernes, plus ancrées dans notre temps, mais aussi avec une vraie mission sociale, c'est-à-dire de pouvoir non seulement donner des beaux concerts, tout le monde veut donner des bons concerts, mais aussi pouvoir partager la musique avec un maximum de gens qui viennent de tous les milieux, de tous les horizons, de tous les bouts de la société, vraiment de partager la musique classique avec tous. Et c'est comme ça que, voilà, qu'on a créé ensemble l'orchestre.
Très bien. Alors avant peut-être que justement Céline, vous complétiez ce que vient de dire David. Effectivement, comme on l'a dit, donc 2013, septembre 2013, la fondation de Geneva Camerata, qu'on appelle GECA souvent, hein, qu'on résume à ça. Ouais. Mm-hmm. Donc un ensemble orchestral genevois ancré ici à Genève, mais quand même tourné vers le monde, on peut dire, parce qu'il y a des tournées, il y a des concerts qui se font au loin également. Alors Céline.
Oui, bonjour. Donc, je suis Céline, la directrice générale du Geneva Camerata, anciennement musicienne, flûtiste. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir toujours, à côté de mes études au conservatoire, travailler aussi dans l'administration musicale de plusieurs institutions. Et du coup, j'ai eu le plaisir de créer cet orchestre avec David. Le début, en fait, de la création de cet orchestre, c'est quoi l'orchestre du 21e siècle? Est-ce que c'est un orchestre de plus dans les institutions culturelles à Genève qui propose des beaux concerts, mais qui reste dans un domaine très précis? Ou est-ce que l'orchestre aujourd'hui a une mission sociale, politique, pédagogique? La musique classique, est-ce qu'elle est toujours décernée à une certaine élite qui a eu la chance de recevoir en fait des codes pour accéder aux concerts? Ou est-ce qu'on peut présenter le concert classique autrement, en sensibilisant un public qui a parfois peur de rentrer dans les salles de concert traditionnelles? Et c'est comme ça qu'est né GECA, le Geneva Camerata.
Très bien. Alors voilà, effectivement, on va, dans cette première partie de l'entretien, parler des postures et des destins du GECA. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, eh bien, on parlera de l'actualité, des prochains concerts, de la rentrée culturelle, puisqu'on est aux portes de cette rentrée, avec le 20 septembre, le premier concert, qui est un concert prestige, qui aura lieu peut-être en quelques mois. Voulez-vous déjà annoncer où aura-t-il lieu?
Alors, il aura lieu au bâtiment des forces motrices. Il s'inscrit dans le cadre, en fait, on a trois séries de concerts à Genève qu'on crée de A à Z. On a les concerts prestige qui sont à l'abonnement aussi. Le public peut s'abonner à ces cinq concerts ou aux quatre prochains concerts une fois qu'on aura dépassé ce fameux concert d'ouverture de saison du 20 septembre. On a des concerts qu'on dit sauvages, concerts sauvages, qui ont lieu cette saison au théâtre de Carouge. Et puis, on a des concerts en famille, pour toute la famille, le samedi matin, entre 11h et midi.
D'accord. Et les concerts en famille ont lieu ?
À la salle Franck Martin.
À la salle Franck Martin. Comment en vient-on à créer un orchestre ? Parce que, voilà, êtes-vous des enfants de la balle ? Est-ce que vous prenez vous-même de famille de musiciens ? Est-ce que c'est votre formation de musicien qui ensuite vous a amené à vous dire... Allons-y, il faut qu'on fasse quelque chose et puis qu'on est en train, parce qu'un orchestre, c'est plus qu'être musicien. Alors, je ne sais pas qui aimerait commencer à répondre à cela, David.
Je ne viens pas d'une famille où les parents étaient musiciens. Mes parents sont plutôt dans le domaine universitaire. Mais par contre, c'était très important pour eux. La culture et l'art, de manière générale, ce sont vraiment des fous de culture et d'art, et notamment de la musique, et je dirais vraiment fortement de la musique classique. Et du coup, c'était important pour eux que leurs enfants fassent de la musique, et c'est pour ça qu'on a eu la chance. J'ai quatre frères et on a tous fait de la musique ou faisons de la musique, et on a vraiment eu la chance de pouvoir avoir l'engouement, le soutien de nos parents, pour qui vraiment la musique était, je dirais, plus qu'un hobby, plus qu'une chose qu'ils aimaient. C'était vraiment crucial que dans la famille il y ait de la musique, sinon c'est pas une famille. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense que c'est de là aussi qu'on a reçu cette idée de nos parents, que l'art n'est pas un luxe, que l'art est une nécessité, et que chaque personne dans la société mérite d'avoir de l'art et mérite d'avoir accès à l'art, et que ce n'est pas dédié uniquement à une certaine partie de la société. Donc voilà, c'est un peu pour ça que la musique a été là dès un très jeune âge. Voilà, le piano, moi j'ai commencé avec le piano, et j'ai fait mes premiers pas dans ma carrière de concertiste en tant que pianiste, et puis après, un peu plus tard, la direction d'orchestre aussi. J'ai étudié surtout à New York, aux États-Unis. Ce qui m'a permis non seulement de débuter mes études dans un environnement assez extraordinaire à New York, qui est une ville qu'on connaît bien, remplie d'énergie et de surprises, mais aussi de pouvoir découvrir beaucoup de personnalités musicales, beaucoup de personnalités artistiques durant mes études, et ça m'a nourri. C'est entre autres grâce à ça qu'après j'ai pu m'ouvrir à de nouvelles idées, et cette volonté de créer des nouvelles choses qui est restée depuis cette époque.
D'accord. Et toi, Céline, alors quelle est cette trajectoire qui t'a mené à la co-fondation, la co-création d'un orchestre ?
On est issus, David et moi, en fait, plus ou moins des mêmes pensées au niveau de la famille. Mes parents ne sont pas non plus musiciens, mais ma mère professeure de français, mon père pharmacien, et pour eux c'était toujours très important de nous amener dans les musées, au théâtre et aux concerts. Et un jour, assez petite, mes parents m'ont amenée au Victoria Hall à l'époque. Et j'étais très petite, je voyais à peine, on n'avait pas des très bonnes places, donc je voyais à peine l'orchestre sur scène. Et à un moment donné, j'ai entendu un son qui m'a réveillée à l'intérieur de moi-même. Ça m'a fait quelque chose, et du coup j'ai dit à mon père, tu vois, c'est ça que je veux faire. Et lui n'a pas tout de suite compris. Et quand le son de la flûte traversière a à nouveau traversé l'orchestre, il a souri, il a dit, c'est vraiment ça que tu veux faire? Et j'ai dit, ah oui. Et j'ai ce souvenir-là c'était en octobre, novembre, donc quelques mois ou semaines avant Noël, je suis allée avec mes parents acheter ma première flûte, et pour moi c'était le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait me faire. Et puis après, j'ai étudié à Genève, et j'ai après été amenée à étudier aussi à Bâle, à Zurich et à Lausanne. Et notamment pour mon diplôme de virtuosité, j'ai étudié chez José Daniel Castellon, qui était un pédagogue et professeur absolument fantastique qui justement lui était très intéressé à comment avec cet instrument présenter le répertoire et de manière plus générale comment on pouvait faire des concerts spectacles. Et je crois que c'est à partir de cet enseignement que j'ai vraiment décidé de crocher sur le fait que oui, la musique est importante, mais je crois que c'est l'art de manière générale qu'il faut pouvoir donner au public dans tous les sens et les plus larges du terme. Et puis ensuite, il y a eu aussi la rencontre avec le flûtiste Emmanuel Pahut, qui est un des meilleurs flûtistes, ou qui est le meilleur flûtiste au monde. Et par plusieurs discussions avec lui, j'ai pu orienter ma voix en fait, plutôt dans la gestion, l'organisation de concerts. Et c'est de là d'où je viens, en fait. Tout est parti par ces deux grands messieurs.
D'accord. Une petite digression que je vous propose, et j'aimerais avoir en quelques mots votre regard sur la scène locale. On est dans Genève, donc une ville qui est pas si grande que ça, finalement, avec quand même deux conservatoires, le populaire et celui de la Place Neuve. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville particulièrement foisonnante de ce point de vue-là?
Rien qu'en termes effectivement d'écoles, il y a l'Institut Jacques Dalcroze, il y a plein d'écoles de musique plutôt privées à côté effectivement des deux conservatoires officiels. Et puis il y a qu'à ouvrir les journaux tous les jours pour voir l'offre foisonnante, surtout en matière de concerts, peut-être moins en exposition ou dans le domaine en tout cas des arts visuels, mais en tout cas en termes de manifestations musicales. Je crois que tous les soirs on peut aller au concert.
Ouais, on peut dire que du coup on est une jolie place à Genève, en tout cas de ce point de vue-là.
Moi qui ne suis pas à l'origine d'ici, de Genève, c'est assez épatant, il faut dire, par rapport au fait que voilà, c'est pas une ville qui est parmi les plus grandes en Europe, mais qui a une offre en termes de musique classique qui est assez épatante, presque tous les soirs, voire tous les soirs, voire des fois plusieurs fois par jour, on peut voir voilà, des grands orchestres, de très grands interprètes qui passent chaque année à Genève. C'est assez étonnant de voir cette offre culturelle abondante.
D'accord. Bon, voilà, je trouve intéressant que vous vous exprimiez par rapport à ça. Encore quelque chose qui va vous toucher un petit peu personnellement, enfin en tout cas je l'espère. Céline, tu as déjà répondu à cela en parlant d'Emmanuel Pahut, mais y a-t-il pour vous des figures tutélaires ou des œuvres qui ont déclenché quelque chose? Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, il y a un son de la flûte qui est venu, ça peut être en bout d'une œuvre, typiquement, voilà, moi, le Stabat Mater de Pergolèse, c'est quelque chose qui m'a transporté, mais comme beaucoup de gens. Alors voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ces aspirations ensuite? Un compositeur ou une œuvre, ou les deux?
Alors pour moi, c'était assez clairement, vraiment quand je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans en écoutant un disque de Mozart que mes parents mettaient assez fréquemment dans la maison. Et je me rappelle que ça me bouleversait vraiment cette musique. Et des fois, quand ils mettaient des disques d'autres compositeurs, ça me touchait, mais peut-être un peu moins. C'est vraiment par le biais de cette musique-là, c'était quelque chose qui me transportait. J'adorais écouter ça et je me disais, voilà, je pense que c'est la plus belle musique du monde. Et je pense que c'était particulièrement de la musique pour piano de Mozart. Mmh. Et donc, j'y pense encore assez souvent de ces premiers moments-là où j'écoutais cette musique et je me disais, ah, ça, j'ai envie de faire ça.
5 ans, c'est très précoce.
C'était cette musique, je pense que même si je l'avais écoutée avant, et peut-être que je l'ai écoutée avant, mais je m'en rappelle pas, mais ma mère d'ailleurs disait toujours qu'elle mettait de la musique quand elle était enceinte, ce que font, je pense, beaucoup de mères d'ailleurs. Mais en tout cas, dès les premiers moments où consciemment j'ai pu apprécier cette musique, ça me touchait d'une manière exceptionnelle et je me disais, voilà, ça je veux faire ça. Après, peut-être je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais Mozart... Et puis après, Mozart est resté là pour moi pendant toute ma vie, vraiment jusqu'à aujourd'hui, c'est un des compositeurs que je joue et que je dirige le plus, et ça reste un compositeur qui me touche comme aucun autre compositeur me touche, même si voilà, j'aime tous les compositeurs, mais voilà, c'est quelque chose d'un peu différent avec Mozart.
Ok. Et toi, Céline?
Moi, à nouveau, ça va pas être très original, mais en fait, on a, je crois que si on a eu cette idée de créer un orchestre ensemble, c'est parce qu'on a beaucoup de points communs, mais c'est vrai que aussi très jeune, j'avais pas encore commencé la flûte, ça c'est sûr, donc ça devait être aussi vers 5-6 ans. Mon père m'a offert en fait l'intégrale des concertos pour piano de Mozart avec Murray Peraya, et je me rappelle que j'ai passé des heures dans ma chambre à dessiner tout en écoutant 3 fois, 4 fois, 5 fois bis repetita ces concertos. Et puis j'étais aussi très proche d'une de mes tantes qui était danseuse, donc il y a eu aussi le Casse-noisette de Tchaïkovski, et puis ma mère qui était plutôt branchée théâtre, il y a eu aussi beaucoup de musique baroque, notamment le Bourgeois gentilhomme de Lully.
Oui, Lully, le pauvre Lully. Alors, venons-en à cet orchestre. Comment est-ce qu'on recrute des musiciennes et des musiciens? Quel nombre? Quel corps de métier, ce que je veux parler, c'est quels instruments? Voilà, comment est-ce qu'on fabrique mentalement et qu'ensuite on reproduit ça dans la réalité?
Ça, c'était la partie la plus complexe, parce qu'en fait, on a créé l'association Geneva Camerata en 2012, et on a passé, je crois, en tout cas 8 à 10 mois, en plus de la recherche de fonds, de la programmation, à surtout chercher en fait les membres, les musiciens qui allaient faire partie de cet orchestre. On n'a pas passé d'audition, mais par contre, on avait des recommandations, on connaissait certains musiciens, et cette partie était très complexe parce que dès le début, on a voulu vraiment propulser le concert classique dans l'univers du spectacle. On avait déjà beaucoup d'idées au niveau de la programmation, de faire justement des passerelles entre différents arts, avec de la danse, avec du théâtre, passer au cours de la même soirée d'une pièce baroque à une pièce contemporaine, puis retourner sur une pièce classique, puis faire du jazz, puis aller sur des musiques folkloriques. Donc justement, pour répondre à ça, il fallait que les interprètes qui soient sur scène pendant toute la soirée et qui fassent ces espèces de numéros d'acrobatie, en tout cas au niveau des répertoires déjà, puissent répondre et puissent jouer ces répertoires extrêmement bien. Donc voilà, il fallait chercher un profil très spécifique de musicien aventureux, parce que je me rappelle des premiers mails qu'on écrivait aux musiciens. Cet orchestre n'existait pas, il était en train d'être créé, donc il fallait qu'ils nous fassent entièrement confiance pour s'engager dans l'aventure.
Et ça, c'était compliqué. C'était compliqué de mettre en place ce puzzle.
C'était compliqué aussi parce que, déjà en effet, quand il n'y a pas d'entité qui existe au départ, tout le monde doit se faire confiance. Mais aussi parce qu'en fait, encore aujourd'hui, dans le monde du classique, il y a une idée assez, je dirais, précise de ce que devrait être un orchestre, alors qu'on pense à un orchestre. Voilà, il y a cette idée de quelque chose d'assez grandiose, assez majestueux, avec tous ces instruments sur scène. Et il y a beaucoup de codes et de traditions, entre guillemets, qui se sont installés au fil du temps. Et en fait, quand on a créé l'orchestre, c'était aussi cette idée de revisiter un peu ces codes et se poser des questions comme est-ce que ces codes, est-ce que ces traditions... aujourd'hui, au 21e siècle, ont la même importance qu'il y a 50 ou 100 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que l'orchestre classique, l'orchestre symphonique, il date quand même bien, au moins du 19e siècle, voire même avant. Et on avait cette envie d'inviter des musiciens qui seraient d'accord avec nous de revisiter ces traditions et surtout... de s'investir en effet dans d'autres mondes et pas seulement dans le monde du classique, et de leur de leur demander certains défis, certaines prises de risque, d'improviser du jazz, d'effectuer des mouvements chorégraphiques sur certains spectacles, de participer à des spectacles de marionnettes, de faire des girouettes aussi dans des spectacles de cirque. Beaucoup de choses. C'est pour ça que voilà, on est très fiers aujourd'hui de cette entreprise multidisciplinaire qu'on a voulu présenter au public. Et du coup, en effet, comme le disait Céline très justement, c'était complexe parce que des musiciens qui sont capables de jouer de la musique classique au plus haut niveau et d'être des virtuoses, mais aussi d'accepter de faire de la en plus de la musique, du jazz, du blues, du rock pop, de la chorégraphie, du cirque, des arts visuels, etc. Des musiciens comme cela, il y en a très peu, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est pour ça que ça nous a pris vraiment pratiquement une année à les trouver. Et voilà, ce sont non seulement des gens très talentueux, mais comme vous pouvez aussi bien l'imaginer, ce sont des grandes personnalités, parce que voilà, pour pouvoir être capable de faire toutes ces choses, il faut avoir des personnalités quand même assez intrigantes, ce qui crée quand même une ambiance assez particulière dans cet orchestre. Il y a vraiment un esprit, je pense que toutes les personnes qui viennent écouter l'orchestre en concert, quel que soit le répertoire, quel que soit le spectacle, ont cette sensation très forte pendant le concert qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe sur scène, quelque chose de très famille, quelque chose de très très intime, je dirais. Et ça, je pense qu'on en est, on en est tous très fiers.
D'accord. Alors, j'aurais plein de questions effectivement concernant justement tous ces interprètes hein, de ces œuvres que vous mettez en œuvre. On viendra là-dessus une autre fois, je pense, peut-être avec quelques musiciens, qui sait, parce que sinon ça va être un petit peu trop long. J'aurais quand même voulu savoir, avant qu'on aille vraiment dans la programmation qui débute le 20 septembre, j'aurais encore voulu savoir quel était le retour du public et de vos pairs PAIRS. Y a-t-il entre différents orchestres des collaborations, des prêts de musiciens, des échanges de musiciens, et de quelle manière est-ce qu'on vous a perçu, justement, vous qui arrivez et qui avez quand même eu un grand coup de pied dans la fourmilière. Et également, de la part du public, s'il y a eu un public qui est venu en disant « ce truc est génial, j'y retourne, j'en parle », ou s'il y a eu « oui, mais non, il touche à quelque chose qui est quand même du domaine du sacré, là ».
Alors, venant du public, en fait, l'enthousiasme, il a été, je crois, quasiment d'emblée acquis. Et c'est assez spectaculaire, le développement et l'augmentation du public de saison en saison. Chaque saison, on a plus d'abonnés. Les salles sont quasiment... pratiquement toujours annoncée complète. Ça a été formidable dès le début. Je crois que faut pas prendre les gens pour des imbéciles. En fait, je crois qu'ils sont parfaitement capables en fait de choisir parmi toute l'offre culturelle. Et c'est pas parce qu'ils viennent à JK qu'ils peuvent pas aller ailleurs et inversement. Ils savent par contre, et ça c'est devenu quand même quelque chose de vertigineux, que quand ils viennent à JK, ils vont s'attendre à avoir des choses extraordinaires qui vont se passer sur scène, en tout cas ou hors du commun, avoir des musiciens effectivement, comme le disait David, danser tout en jouant par cœur. Ils vont voir des musiciens, des magiciens, ils vont voir des acrobates, ils vont voir des grands comédiens, ils vont voir plein de choses qui sortent effectivement du commun, du concert classique. Après, par rapport plutôt aux autres institutions culturelles, c'est toujours plus délicat, on va pas se le cacher. On a été un peu comme un espèce d'ovni qui s'est créé de nulle part et puis qui est sorti un beau jour sur la place. Et maintenant, c'est quelque chose aussi de plus financier. Toutes les institutions culturelles, évidemment... elles doivent faire fonctionner les charges qui leur incombent, et on a été une institution de plus à surgir et à avoir aussi besoin de mécènes, de sponsors et de partenaires pour exister. Donc la collégialité entre nous est bonne. Après, effectivement, chacun doit faire son bout de chemin.
On l'a pas encore dit, non, le site internet de Geneva Camerata.
Oui, www.genevacamerata.com. Deux versions, une en française, une en anglaise.
Ouais. Et puis les réseaux sociaux, c'est quelque chose aussi sur lequel vous êtes présent.
Oui, alors ça, David est très accro aux réseaux sociaux, donc je crois que je vais le laisser prendre la parole.
Les réseaux sociaux, David.
Je pense qu'on est tout aussi accro.
Non,
je corrige.
Non, c'est vrai. Correction validée.
Ça revient un peu... Ça revient pas à ce qu'on disait au début, si on parle de la communication, des réseaux sociaux, c'est aussi parce que ça fait partie de notre mission de réussir à atteindre de nouveaux publics, parce que en effet, Encore aujourd'hui, le réel problème de la musique classique, c'est pas la beauté de cet art, ça on le connaît, le problème est cette image poussiéreuse que pas tout le monde a, mais que beaucoup de personnes ont, cette peur de devoir être habillé d'une certaine manière en allant au concert, cette peur de ne pas connaître les compositeurs, et si on souhaite en effet communiquer sur ce que fait cet orchestre et surtout sur les spectacles un peu originaux, c'est parce qu'on est convaincu que par le biais de ces spectacles, par le biais de cette démocratisation de la musique, on peut faire venir des publics qui n'ont jamais eu peut-être encore l'opportunité de venir. On sait, par le biais de très très beaux témoignages, des lettres, des mails qu'on a reçus et qu'on reçoit encore de personnes qui sont venues pour la première fois de leur vie à un concert de musique classique chez nous. Et je pense que c'est en grande partie parce qu'on va les chercher, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de la communication, d'interviews comme celui-ci, et d'autres moyens vraiment d'aller les chercher. On est, je pense, aussi convaincu qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens juste viennent à un concert classique parce qu'il y a un grand chef-d'œuvre dans ce concert. Il faut aller les prendre par la main, leur expliquer, leur dire des belles choses sur ce concert, les convaincre. Et en plus, parce qu'à Genève, il y a cette offre culturelle abondante, il faut qu'on s'explique sur pourquoi nos concerts sont différents, en quoi notre concert va proposer quelque chose qu'aucun autre orchestre va proposer. Si on veut que les personnes le sachent, ben c'est notre responsabilité de l'expliquer, de le présenter de manière ludique, sympathique, agréable, chaleureuse. Et c'est ce qu'on essaye de faire constamment.
D'accord. Alors, y a-t-il également justement des collaborations avec d'autres orchestres qui pourraient être similaires, disons, dans les notions et dans le projet que vous proposez ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Céline, tu as parlé de politique, vous avez parlé d'une forme d'engagement, de pédagogie, d'une responsabilité, vous venez de le dire. Alors, est-ce que ça, on le retrouve, selon vous, dans d'autres orchestres avec lesquels peut-être vous échangez ?
Je ne pose honnêtement pas que d'autres orchestres font ce qu'on fait. Et je le dis pas vraiment pour j'ai énormément de respect pour ce que d'autres orchestres à Genève et en dehors de Genève font, mais notre projet artistique et surtout les spectacles qu'on crée de A à Z, que ce soit les rencontres entre classique et jazz, entre classique et danse, entre classique et théâtre, etc., etc., ce sont des choses uniques et on le voit. On regarde autour de nous de ce qui se passe et ces spectacles-là qui sortent de l'ordinaire, on est, je dirais, pratiquement, on n'est peut-être pas les seuls au monde, bien entendu. On a dans la jeune génération d'autres personnalités, d'autres ensembles qui essayent aussi de faire des choses éclectiques, mais en tout cas, dans la région et de manière plus générale, je pense qu'on est parmi les seuls à proposer ce type-là de spectacle.
Et puis je rajouterais qu'en fait, ça a été l'essence même de la création du Geneva Camerata. On ne souhaitait absolument pas faire un orchestre de plus à Genève. Il y en a déjà 3 ou 4, donc c'était suffisant pour quand même la taille de la ville. Le nom n'a pas été choisi au hasard. En fait, Geneva, c'est qu'on assume totalement d'être un orchestre genevois, mais on souhaitait apporter une touche effectivement d'international dans l'histoire. Et puis Camerata, en fait, au XVIe, XVIIe siècle, c'était un groupe d'artistes. Donc il y avait aussi bien des musiciens que des danseurs, que des chanteurs, que des comédiens. Et je crois que JK, c'est ça qu'on prétend être. En fait, on est une troupe d'artistes. Après, effectivement, de dire qu'on est un orchestre, oui, parce que ça rassure beaucoup de gens. Et il faut quand même expliquer et donner des codes aux gens pour pouvoir venir à nos concerts ou à nos spectacles. Mais je crois vraiment que le but de cet orchestre, même si c'est pour moi pas le bon mot, de cette camerata, c'est de faire se réunir plusieurs artistes ensemble et de proposer une magnifique soirée.
Très bien. Encore une question et puis ensuite on va aller au cœur du sujet de la programmation, si ça vous va comme ça. Ouais. Mm-hmm. Okay. Alors, on l'a dit, pour le moment, les principaux lieux où vous vous produisez, c'est le DFM, le bâtiment des forces motrices, et puis le Victoria Hall. Y a-t-il comme ça des lieux dans lesquels vous auriez envie d'aller, des espèces d'idées un petit peu farfelues, des lieux insolites que vous auriez envie justement d'aller occuper pour y proposer cette musique ? Et suivi desquels?
Disons qu'en tout cas, aussi pour fidéliser le public, je pense que c'est bien d'avoir certaines salles qui soient fixes et où on puisse quand même avoir tous les paramètres pour proposer de la qualité au niveau quand même acoustique, parce que ça reste quand même l'essence de ce qu'on propose.
Et Victoria Hall, c'est splendide pour ça, on est d'accord.
Exactement, et il y a une acoustique qui est magnifique. Donc voilà, pour nos concerts prestige, c'est Bâtiment des Forces Motrices ou Victoria Hall. Pour nos concerts en famille, c'est pour l'instant la salle Franck Martin, mais peut-être qu'une fois, on aura justement en termes de collaboration l'idée de travailler avec un théâtre qui nous permettra aussi d'apporter encore plus la dimension du spectacle aux manifestations qu'on propose. Et puis les concerts sauvages, on trouvait sympa de le faire dans un théâtre. On l'a fait en fait pendant les 5 premières saisons à la Comédie de Genève. Mmh. Et puis on a quand même décidé de varier un peu. Et cette saison, ce sera la première fois que nos concerts sauvages auront lieu au théâtre de Carouge cette fois. Et puis après, on a une autre série de concerts qui s'appelle Les Rencontres Magiques, où là, c'est une série beaucoup plus hétéroclite sur toutes les invitations qu'on reçoit de programmateurs ou de directeurs de festivals genevois ou dans la région genevoise. Et là, on a beaucoup travaillé avec... on travaille toujours avec la Société de Lecture, donc pour des concerts-conférences que David commente, et puis il y a des extraits musicaux qui sont joués par nos musiciens. Et puis après, on a pu faire plein de concerts dans des endroits qui ne sont pas destinés à la base aux concerts, au musée d'art et d'histoire, à l'usine, dans le cadre du festival Electron. Il y a eu ce concert absolument dingue grâce au festival Antigel, où c'est la vocation justement de trouver des lieux assez fous pour proposer des manifestations. On a fait venir tout l'orchestre avec en concert Mozart et Ligeti sur un court de tennis.
Oh, ok. J'allais vous demander, et le plein air? Eh ben, c'est bon, en fait, je ne pose pas la question. Le plein air, c'est un truc...
Ça, on en a fait déjà beaucoup de
plein air. D'accord, d'accord. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais donc, effectivement, elle est tournée. Donc, vous faites des tournées.
Oui.
Et puis, il y a aussi au moins un album.
Oui,
Donc, exactement. On en dit quelques mots, puis ensuite, on passe au programme.
Oui, je pense que c'est important d'en dire quelques mots, puisque c'est notre tout premier album qui a été enregistré en 2016 et qui est paru très très récemment, puisque voilà, il a vu le jour en janvier dernier chez un très beau label, chez Sony. Et puis voilà, on est surtout très heureux non seulement de la parution d'un premier album, mais aussi parce que c'est un projet qui nous ressemble, qui ressemble à cet orchestre. C'est une rencontre assez explosive entre musique classique, jazz, improvisation, musique du monde, musique moderne. Il y a beaucoup, beaucoup de choses assez folles qui se passent sur ce disque. C'est un voyage. C'est un voyage qui passe à travers des mondes et des univers assez lointains. C'est un disque qui est construit en forme de palindrome, assez énigmatique. Donc, en fait, on commence et on termine plus ou moins au même point. Le début et la fin et le début. Et puis, c'est un voyage très personnel avec non seulement deux très grands jazzmen, Yaron Herman et Ziv Ravitz, qui jouent sur ce disque, mais nos propres musiciens aussi qui improvisent, qui jouent du jazz. Il y a, je dirais, dans ce disque quelque chose pour chaque personne, que ce soit des amateurs de classique. Il y a le concerto pour piano de Ravel, que ce soit les amateurs de musique baroque, il y a du Lully, du Rameau, du Purcell, de très très belles choses de ce répertoire, et puis beaucoup, beaucoup de jazz. Donc voilà, on est très heureux de ce premier disque.
Et puis alors, comment peut-on se le procurer? On peut-on encore se le procurer?
Oui, il est disponible chez tous les bons disquaires, et puis aussi sur Amazon et sur iTunes. Et je rajouterais que oui, ce disque a une histoire, parce qu'on présente dans le cadre justement de nos concerts prestige toutes les saisons une rencontre entre classique et jazz justement. Et Yaron Herman a été le premier invité jazz de la première saison du Geneva Camerata. Et je me rappelle du public qui sortait en trouvant ça génial de pouvoir faire dialoguer justement musique classique et jazz ensemble. Et ça nous tenait vraiment à cœur de faire paraître ce disque avec lui. On a eu la chance de pouvoir le faire. Et ensuite, le programme de ce disque a déjà beaucoup voyagé, puisqu'on l'a joué 15 fois à travers l'Europe, avec une date finale à la Elbphilharmonie de Hambourg, devant plus de 2000 personnes.
Dis donc, ouais. Dites-moi, selon vous, dernière petite question, est-ce que vous sentez que les médias habituels, les médias de masse comme ça, relayent relativement bien, parlent assez de ce genre d'événements, enfin, en tout cas des vôtres, puisqu'ils sont particulièrement singuliers. Je dis ça parce que, effectivement, on ne l'a pas encore dit, mais le JECA est présidé par un journaliste, par Jean-Philippe Rapp, hein, c'est ça. Alors voilà, selon vous, y a-t-il dans les médias aujourd'hui, à la télé, dans les journaux, y a-t-il quelque chose qui a trait à ce que vous faites ou on est encore vraiment en retard par rapport à ça ?
Alors, bon, la première chose, c'est que je pense que, comme nous, public, les médias sont assaillis tous les jours de diverses informations. Mmh. L'information va de plus en plus vite. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. On voit tristement, il y a des journaux qui disparaissent, des radios qui ferment, des télévisions qui ont de la peine à boucler aussi leur programmation. Donc je pense que d'un côté comme de l'autre, l'information est devenue tellement multiple et tellement dense que pour pouvoir la trier et pour pouvoir traiter chaque sujet, c'est devenu quasiment impossible. Mmh. Après, je pense que pour quand même un petit orchestre comme nous, qui a des ambitions grandes, mais qui n'existe finalement que depuis 5 ans, on a eu de très bons relais, surtout avec la presse internationale au final. On a quand même eu des articles dans le New York Times, dans des journaux, plein de journaux et magazines français, en Allemagne aussi. Et puis après, grâce à nos tournées, on a fait quand même deux grandes tournées dernièrement en juin en Asie et puis en Amérique du Sud, où là, l'orchestre a pu rencontrer aussi et se faire entendre, surtout par de nouveaux publics et par de nouveaux médias.
D'accord, bon, très bien. Venons-en à la rentrée culturelle. Pour vous, c'est donc le 20 septembre, jeudi prochain à 20h, le premier concert prestige, Les Sons de l'Arc-en-Ciel. Alors, à qui la parole pour présenter ce premier événement ? C'est David qui commence.
C'est toujours un moment quand même assez particulier, l'ouverture de saison. Autant pour l'orchestre que pour son public. Et là, on est particulièrement content puisque on a deux grandes stars qui seront là pour cette ouverture de saison, chacune vraiment exceptionnelle dans son domaine. Patricia Petitbon, qui est l'une des plus grandes chanteuses lyriques d'aujourd'hui, soprano, et puis Isabelle Adjani, voilà, qu'on ne doit, je pense, même pas présenter, et même plus présenter, voilà, l'une des plus grandes actrices françaises, sans aucun doute. Et là aussi, comme on le disait un petit peu, c'est une opportunité particulièrement intéressante, puisqu'on pourra présenter plusieurs choses que fait le Geneva Camerata, non seulement de la musique classique, mais aussi des rencontres, par exemple comme la rencontre entre la musique et le théâtre, puisque Isabelle Adjani va participer à cette création mondiale, une commande qu'on a faite à un jeune compositeur sud-américain du Chili qui a écrit une pièce, composé une pièce qui se base sur des textes absolument magnifiques et très émouvants de l'écrivain grec Yanis Ritsos, qui était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est battu contre la dictature et le fascisme en Grèce dans les années 60, qui était quelqu'un qui aurait pu partir en exil, qui aurait pu s'en aller de son pays, mais qui a décidé de combattre le mal dans son pays, et donc qui a écrit cette pièce qui s'appelle Ismène. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est une pièce extrêmement émouvante, et la musique qui va avec aussi sera très belle. Et donc Isabelle Adjani qui va en fait jouer ce rôle d'Ismène, qui est dans la mythologie grecque à l'origine la sœur d'Antigone. Et voilà, donc on attend cette création avec impatience. Et puis Patricia Petitbon qui, quant à elle, chantera des airs de Mozart et de Gluck, donc des airs classiques du XVIIIe siècle. C'est un peu, je dirais, sa spécialité. Mozart est l'une de ses grandes spécialités, et donc voilà, je suis particulièrement content aussi d'ouvrir la saison avec un peu de Mozart, mais aussi des œuvres dans le même programme, des œuvres comme on joue beaucoup de musique baroque, c'est l'une des spécificités de l'orchestre, une sélection de plusieurs mouvements de l'opéra Hippolyte Arici de Rameau, et on terminera ce programme avec l'une des plus grandes symphonies de l'ère romantique, la troisième symphonie de Schumann, qui est vraiment l'une des plus belles œuvres symphoniques de Schumann, et je dirais l'une des plus belles et majestueuses pièces du 19e siècle. Donc voilà, c'est un programme très très riche, varié, avec en fait on fait un voyage du baroque jusqu'à nos jours, en passant par plein d'univers, plein de mondes. Je pense que ça va vraiment être un périple ou une aventure assez exceptionnelle.
Alors ce sera le jeudi 20 septembre 2018 au bâtiment des forces motrices à 20h. Le bâtiment des forces motrices, on va le rappeler, c'est Place des Volontaires 2 ici à Genève. Y a-t-il encore une possibilité de réserver ou est-ce qu'on en est déjà au sold out?
Il faut faire vite, mais on peut trouver encore de bonnes places. On a trois catégories, donc tous ceux qui vont vouloir, même en dernière minute, venir au concert seront les bienvenus.
Et pour réserver, on le fait de quelle manière?
Alors, vous pouvez appeler au 022 310 05 45 ou directement sur place le soir du concert, venir assez tôt, on ouvre les portes à 18h30 et on vous accueille avec un grand sourire.
Très bien, très bien. Alors, on arrive doucement au terme de cet entretien, mais j'aurais encore voulu savoir comment est-ce qu'on arrive à provoquer ce type de rencontre, Patricia Petitbon, Isabelle Adjani, comment est-ce qu'on arrive à donner des conditions qui puissent créer voilà, ce type de rencontre et qui débouche sur ça, quoi.
Je crois déjà que David et moi sommes passionnés par ce qu'on fait, passionnés par ce qu'on a créé. Et je pense que tout se fait dans la rencontre et dans le partage. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à discuter avec les artistes ou les solistes qu'on souhaite inviter. Parce qu'on souhaite réellement, comme avec le public et comme avec nos musiciens, chaque fois écrire une histoire. Et pas seulement voilà, avoir des compartiments et dire que voilà, la création avec une comédienne, on l'a fait, la création avec une soprano, on l'a fait. On souhaite écrire, on souhaite partager, on souhaite vivre pleinement, passionnément et à la folie, je crois.
Très bien, très bien. Et alors, pour en terminer, quels sont vos projets à court, moyen, long terme, vos aspirations comme ça? Est-ce que, vers quoi, vers quels cieux avez-vous envie d'aller?
Alors je pense qu'il est important de rappeler quand même qu'en parallèle à ces manifestations pour le grand public, l'orchestre a une mission sociale, c'est-à-dire qu'on ne communique pas beaucoup dessus, mais il faut savoir que les musiciens d'orchestre, pratiquement tout le temps bénévolement, vont tout au long des saisons dans les hôpitaux, dans les foyers, pour jeunes en situation de précarité, en détresse, dans les maisons de retraite, même dans les hôpitaux psychiatriques, parce que justement c'est une des réponses peut-être à la question qu'on s'est posée, c'est quoi l'orchestre au XXIe siècle, c'est aller à la rencontre aussi de gens qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer dans les salles de concert. Et à ce propos, en fait, le lendemain du 20 septembre, le 21 septembre, c'est un vendredi, de 19h à 20h, à la salle Franck Martin, on fête les 30 ans de l'association Alzheimer Genève. L'entrée est gratuite pour tous. Et puis on va offrir avec le clarinettiste Guy Ladarel une fête musicale au pays des Balkans. Donc voilà, il faut réserver auprès de l'association Alzheimer Genève, mais ce concert est gratuit. Donc voilà, pour les objectifs de Geneva Camerata, toujours partager avec le public le plus large possible, aller toujours plus dans l'univers du spectacle. Et puis c'est vrai que les tournées, les dernières tournées effectuées ont ouvert des portes assez hallucinantes à l'orchestre au niveau des invitations prestigieuses de programmateurs ou de festivals.
Et toi David, qu'aurais-tu à dire à ce propos?
Moi j'aurais aimé peut-être une dernière chose sur le dire une dernière chose sur le ce concert d'ouverture, c'est que en fait ce qui est assez passionnant avec le Geneva Camerata, c'est qu'il y a comme voilà, on suit un certain destin, il y a comme ça des petits signes sur le chemin, des étoiles peut-être, des rencontres, des contacts, des choses assez belles qui se passent avec cet orchestre, que ce soit des musiciens qui se rencontrent pour la première fois par le biais de cet orchestre et un an plus tard on apprend qu'il y a un petit bébé. Voilà, c'est des choses assez personnelles qui se passent dans cet orchestre, mais c'est vraiment pour accentuer ce côté familial qui est fabuleux dans cet orchestre. Et toute personne qui vient écouter cet orchestre, peut s'en rendre compte. Et peut-être la dernière chose, c'est qu'il y a 2 ans, on ouvrait notre saison avec Didier Lockwood, le grand Didier Lockwood, violoniste jazz, l'un des plus grands jazzmen de son temps. Et c'était vraiment une rencontre fabuleuse entre lui et l'orchestre. Le public était debout à la fin de sa prestation. Et dans l'une des loges était Patricia Petitbon, sa compagne. Et puis elle était venue après, bien sûr, on avait pu un petit peu discuter. Elle avait adoré ce concert. Et tristement, il y a quelques mois, donc, Didier Lockwood disparaît. Tristement, trop tôt, encore jeune. Et puis pour nous, c'est vraiment très, très, très émouvant, suite à cette collaboration avec ce grand artiste, que seulement quelques mois après sa disparition, on puisse accueillir Patricia Petitbon, qui a passé une grande partie de sa vie avec Didier Lockwood. Donc voilà, d'ouvrir cette saison avec Patricia Petitbon, 2 ans après avoir accueilli Didier Lockwood, c'est vraiment quelque chose d'assez émouvant pour nous. Et ça fait partie, comme je le disais, de ces signes, petits signes comme ça. On peut croire au destin ou à des étoiles ou à ce qu'on veut, mais c'est comme ça des petites choses qui font partie maintenant de l'histoire du Geneva Camerata.
En tout cas, sans dire long sur les attitudes qui vous mobilisent. Alors, Céline Meyer, David Greifsamer, je vous remercie énormément d'avoir pris du temps sur vos agendas et je vous souhaite une bonne rentrée musicale.
Merci.
www.libradio.org, la radio qui vient à ta rencontre.